9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end, bienvenue dans C'est arrivé cette semaine. Et qu'est-ce qui est arrivé cette semaine qui mérite qu'on prenne un peu de recul et qu'on y réfléchisse? Eh bien, pour commencer, tous les regards se sont tournés vers le Conseil constitutionnel qui examine les recours de l'opposition contre la réforme des retraites. Alors, beaucoup espèrent que la totalité de la loi va être invalidée, mais le Conseil constitutionnel est-il le contre-pouvoir que l'on croit? Laureline Fontaine va nous dire ça tout de suite. Elle est professeure de droit public et de droit constitutionnel. Je recevrai ensuite le docteur Adel Louafi, le président du syndicat national des chirurgiens esthétiques. Il veut que l'on interdise l'acide hyaluronique en vente libre. Il va nous expliquer pourquoi. Et l'on terminera l'émission avec Alicia Doré qui publie « À nos ivresses ». Oulala, faut-il encore faire un éloge de l'ivresse en 2023? Est-ce que c'est bien raisonnable?
Europe 1.
Bonjour Laureline Fontaine.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes professeur de droit public et de droit constitutionnel à la Sorbonne Nouvelle et vous venez de publier au début du mois de mars aux éditions Amsterdam La Constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel. Merci d'avoir accepté mon invitation dans C'est arrivé cette semaine. Tout le monde attend le verdict du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites qui est prévue au mois d'avril. Alors, parmi les motifs de censure invoqués par les recours du Rassemblement national, de la NUPES et de la gauche sénatoriale, il y a le principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires. C'est un principe qui a été créé par le Conseil constitutionnel en 2005. Est-ce qu'il pourrait entraîner l'invalidation de la loi ?
Théoriquement, bien sûr. Théoriquement, bien sûr, dans la mesure où le texte aujourd'hui n'a pas été discuté entièrement par l'Assemblée nationale, qui n'a pas non plus voté le texte ni en première lecture ni en seconde lecture. Donc, théoriquement, ça devrait être possible de pouvoir censurer le texte sur le fondement de la clarté, de la sincérité des débats, d'autant plus que le gouvernement a utilisé un véhicule particulier, précisément un véhicule qui évitait de prolonger à l'excès les débats, alors pas seulement en termes de volume horaire, mais en termes de durée, puisqu'au total, les débats pouvaient ne pas excéder 50 jours, hein, selon l'article 47.1, et qu'au regard de l'ampleur de la réforme sur une question de société aussi importante que l'âge légal de départ à la retraite, eh bien ça peut poser effectivement un certain nombre de questions. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, est-ce que le Conseil constitutionnel sera sensible à cette théorie ? Évidemment, je ne me hasarderai pas à le pronostiquer, mais disons que par le passé, le Conseil ne nous a pas démontré qu'il était une instance très fiable sur le plan de l'application des principes constitutionnels. Il en ignore une partie, il est assez variable sur son interprétation d'autres parties du texte constitutionnel et surtout, il a une certaine sensibilité à l'exercice du pouvoir, dont il adopte facilement le raisonnement, ce qui l'éloigne un peu souvent de la possibilité de censurer les lois. Donc, je ne sais absolument pas ce qu'il va décider le 14 avril, puisque c'est ce jour-là qu'il a dit qu'il rendrait sa décision. En tous les cas, le passé ne plaide pas pour l'optimisme.
Le Conseil constitutionnel, il faut le rappeler, n'a censuré totalement un texte de loi qu'à 4 reprises depuis qu'il a été créé en 1959. On parle beaucoup également d'une nouvelle délibération prévue cette fois par l'article 10 de la Constitution. Alors de quoi s'agit-il ?
Alors le président de la République a la possibilité, mais surtout lorsqu'il n'est pas d'accord avec le texte qu'a voté le Parlement, de demander à ce que celui-ci délibère une nouvelle fois sur le texte. Alors, on comprend bien qu'on n'est pas du tout dans cette hypothèse-là, que ça n'est évidemment pas dans cet esprit qu'a été rédigé l'article 10. Donc, c'est plutôt une sorte d'invitation que l'on fait à l'égard du président d'utiliser de manière un peu détournée cet article 10. Mais à la limite, pourquoi pas dans la mesure où précisément il a déjà détourné d'autres articles de la Constitution, à l'instar de ce fameux article 47.1 qui n'était absolument pas prévu pour réformer le système des retraites comme ça a été le cas aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un peu un appel en pied de nez. Mais on comprend bien que l'espoir est faible en la matière.
De même, le Conseil constitutionnel examine en ce moment la recevabilité d'un RIP déposé par 252 parlementaires, un référendum d'initiative partagée pour fixer l'âge légal du départ à la retraite à 62 ans maximum. Alors là encore, de quoi s'agit-il ?
Alors, ce référendum d'initiative partagée, comme son nom l'indique, est donc à initiative partagée entre les parlementaires actuels et les membres du corps électoral. Donc, les parlementaires prennent l'initiative de ce référendum. Ensuite, ils recueillent la signature d'au moins un dixième des électeurs, ce qui est un chiffre énorme. Puisqu'il faut recueillir à peu près 4,8 millions, je crois, de signatures pour qu'on ait une chance que le texte qui est proposé soit ensuite examiné par les parlementaires ou, à défaut, si les parlementaires ne le font pas, pour que le président de la République soumette le projet à référendum. Mais je précise qu'en tout état de cause, si ce référendum arrivait à son terme, beaucoup de constitutionnalistes expliquent en ce moment que ce référendum a vraiment peu de chances d'arriver à son terme, mais quand bien même, il aboutirait à la production d'une nouvelle loi, c'est-à-dire de la même valeur que le texte qui vient d'être adopté aujourd'hui. Ce qui nous rappelle que l'article 3 de la Constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Mais c'est une alternance qui n'est pas exclusive. C'est-à-dire que si le peuple décidait quelque chose par la voie du référendum, rien n'empêcherait le législateur, un an après, d'abroger la loi adoptée par voie du référendum. Donc si le référendum dit 62 ans, un an plus tard, le législateur, dans le cadre d'une nouvelle réforme, peut dire « non, ce sera finalement 64 ans » parce que le texte a la même valeur. Le référendum ici n'est pas pour réviser la Constitution, il est simplement pour faire une nouvelle loi.
Ouais. Donc ça peut traîner très longtemps alors que la loi sera déjà appliquée. Hein.
Si elle est validée par le Conseil constitutionnel.
Évidemment.
Elle pourra effectivement être appliquée pendant ce temps-là, même si en réalité la portée de la loi n'est pas immédiate. Donc ça pourrait être intéressant entre-temps qu'effectivement une autre loi soit adoptée qui refixe l'âge légal à 62 ans. Mais on peut jouer à ce petit jeu pendant un certain temps.
On fait une pause, Laureline Fontaine, et puis après vous allez nous expliquer pourquoi le Conseil constitutionnel n'est pas, d'après vous, le contre-pouvoir que l'on croit.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes dans cette arrivée cette semaine avec la professeure de droit public et de droit constitutionnel, Laureline Fontaine, qui a publié au début du mois de mars « La Constitution maltraitée », un livre dans lequel vous expliquez que le Conseil constitutionnel n'est pas le contre-pouvoir que l'on imagine. Premièrement, vous remettez en cause son impartialité. Pourquoi ?
Parce que si on regarde ce que signifie l'impartialité dans le cadre de la justice, c'est un concept quand même qui commence à être ancien, qui a une histoire, qui a été élaborée aussi bien en France que dans d'autres pays, cela exige que celui qui juge non seulement n'ait pas de conflit d'intérêts, mais soit aussi, un tiers, un étranger en quelque sorte, au parti, à la justice, au parti à un procès. Or là, le Conseil constitutionnel, son rôle, c'est de contrôler la loi, c'est-à-dire un acte adopté par le Parlement et la plupart du temps à l'initiative du gouvernement. Et il se trouve que ceux qui jugent au Conseil constitutionnel, ont tous, pratiquement tous, un lien assez direct avec l'exercice de ce pouvoir. Souvent, ce sont des anciens collègues. Un jour, une ministre, membre du gouvernement, entre le lendemain au Conseil constitutionnel. Là, un sénateur, là, un parlementaire. Donc, qui vont directement juger d'actes auxquels, d'ailleurs, parfois, ils ont eux-mêmes participé. L'actuel président du Conseil constitutionnel siège dans une formation où on juge d'une loi dont il a adopté le principe lorsqu'il était numéro 2 du gouvernement, lorsqu'il est arrivé en 2016. C'est ce qui est arrivé avec Laurent Fabius par rapport à la loi El Khomri. Et cette situation-là au Conseil, elle est structurelle. Elle est proprement impensable à l'étranger, j'insiste. Aucune cour constitutionnelle ou suprême ne connaît cette configuration où les membres de la cour sont souvent d'anciens membres du pouvoir qu'ils jugent. Et ça arrive vraiment extrêmement souvent.
Laureline Fontaine, vous dites que les 9 membres sont nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ça, c'est comme ça dans à peu près tous les pays démocratiques. Mais eux, les nôtres, ne sont pas auditionnés, comme aux États-Unis, par exemple, pendant plusieurs jours par le Sénat, après une enquête du FBI, une enquête du fisc, etc., pour rechercher d'éventuels conflits d'intérêts. Et en plus, ils n'ont pas de compétences juridiques particulières, comme les juges de la Cour suprême. Ce sont des politiques.
Oui, ce sont des personnalités souvent politiques, liées à l'exercice du pouvoir et qui pensent politique. Alors, ce qui est vrai, vous l'avez noté, la particularité de la France, c'est que nos autorités de nomination choisissent délibérément, depuis 1959, de nommer au Conseil des anciens politiques. Bon, ça n'est pas le cas dans d'autres pays. Alors, depuis 2010, cela dit, les personnalités proposées passent devant une commission de parlementaires. Ça, c'est une réforme de 2008, mais effectivement très courte. 1h, 1h30 d'audition, dans les conditions, on va dire, d'une bonne entente entre les différents membres. Il y a une forme de complaisance des parlementaires à l'égard de ceux qui sont nommés. Voilà, on se connaît, on s'estime, on a déjà travaillé ensemble. Donc, il n'y a aucune question vraiment sérieuse posée à ces différents candidats. C'est très rapide, il n'y a en effet aucune enquête. Il suffit finalement pour un candidat, entre guillemets un candidat, parce qu'en fait la nomination est faite, il suffit pour un candidat de déclarer son attachement à la Constitution, combien même d'ailleurs il ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, pour que l'on se dise « c'est un bon candidat, il a rendu de bons services à l'État auparavant, il continuera de le faire au Conseil constitutionnel ». Sous-entendu, on fait du Conseil une annexe du pouvoir, un collaborateur du pouvoir, mais certainement pas un contre-pouvoir. Alors, je voudrais juste préciser à cet égard que je vois ici ou là qu'on me dit « mais le Conseil n'a pas été créé pour être un contre-pouvoir ». Alors, c'est discutable, mais c'est peut-être vrai. Mais quand bien même ça serait le cas, celui-ci, depuis des années, se revendique comme le gardien de nos droits et libertés, comme le rempart de nos droits et des libertés contre les atteintes que pourraient y porter les majorités politiques successives et volatiles. Et donc, moi, j'explique que ça n'est pas le cas, que ce discours ne correspond pas à la réalité du fonctionnement du Conseil constitutionnel et à la jurisprudence, aux décisions qu'il rend.
Voilà pourquoi il ne faut pas trop avoir d'espoir. Ceux qui espèrent une invalidation de la loi sur la réforme des retraites risquent d'être déçus, n'est-ce pas ?
Oui, alors, comme je l'ai dit souvent par ailleurs, on n'est pas à l'abri d'une bonne décision du Conseil constitutionnel. Mais je mets l'accent sur le fait que si jamais, piqué au vif par toutes les attentions qui sont portées sur lui ces derniers temps, il décidait effectivement d'invalider complètement la loi, bon, ce qui en effet me paraît peu probable, mais si jamais il décidait de le faire, il ne faudrait pour autant pas oublier que pour une bonne décision, de temps en temps, il y a 100 autres mauvaises décisions qui laissent passer scrupuleusement tous les grignotages de droits, de nos droits et libertés, dans une forme, là aussi, pour le coup, de retour de complaisance du Conseil constitutionnel à l'égard d'une majorité politique.
Merci, Laureline Fontaine. Je renvoie à la lecture de votre livre « La Constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel ». C'est paru aux éditions Amsterdam.
Merci à vous.
Et avant de retrouver le président du Syndicat national des chirurgiens esthétiques qui a tiré le signal d'alarme cette semaine, je tiens à vous signaler que l'ami Laurent Mariotte vous attend à 11h aujourd'hui à la table des bons vivants avec Pierre Perret comme invité. Allez, on se retrouve dans un instant avec le docteur Adèle Loiffy.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
On voit de plus en plus de jeunes femmes aux lèvres anormalement pulpeuses, aux fesses gonflées, à la peau du visage étrangement tendue, et l'on se demande, mais qui leur a fait ça? Docteur Adel Ouafi, bonjour, vous êtes chirurgien plasticien et président du syndicat national des chirurgiens esthétiques. Vous êtes à l'origine d'une tribune parue cette semaine dans Le Parisien, signée par 200 chirurgiens. Vous tirez le signal d'alarme concernant la vente d'acide hyaluronique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
D'abord, l'acide hyaluronique, qu'est-ce que c'est? C'est un produit, c'est le produit de comblement, le produit qui permet de combler les rides et qui permet d'augmenter les lèvres, d'augmenter les fesses. C'est un produit qui existe naturellement dans l'organisme. Le problème, c'est que cet acide hyaluronique doit être injecté par un chirurgien esthétique ou par un médecin formé, car il y a des risques à son utilisation, en particulier si on l'injecte mal, il peut boucher des artères ou on peut toucher des nerfs. Et actuellement, il y a cet acide hyaluronique, qui est à usage médical, est en vente libre. On peut acheter en pharmacie ou sur Internet des seringues d'acide hyaluronique, des aiguilles pour l'injecter, et on peut du jour au lendemain devenir un injecteur clandestin, en l'occurrence c'est essentiellement des injectrices, donc des injectrices, des fake injectrices, des injectrices illégales, qui injectent sans aucune connaissance de l'anatomie, sans aucune connaissance des conditions d'hygiène et de l'asepsie, et qui sont responsables de complications gravissimes qu'on n'avait jamais vues jusqu'ici.
Par exemple?
Dans ces complications, ce qu'on a vu, et vous avez peut-être vu que dans la liste des signataires, il y a aussi des chefs de service hospitaliers et des praticiens hospitaliers, on a vu arriver dans nos cabinets et aux urgences des services de chirurgie plastique hospitalière, des nécroses, c'est-à-dire que l'injection a touché une artère, la peau n'était plus irriguée, la peau est morte, elle a nécrosé, on a dû amputer des patientes d'un morceau de lèvre ou d'un morceau de nez. Il y a même eu des patientes qui ont eu des greffes quasi complète de la face, c'est des opérations qu'on fait chez des grands brûlés, c'est des opérations qu'on ne devrait pas faire chez quelqu'un qui a subi une simple injection d'acide hyaluronique. Et on a vu aussi des infections gravissimes, comme on n'en avait jamais vu, des personnes qui ont été en réanimation, qui ont eu un choc septique, une gangrène gazeuse, ce qu'on appelle une gangrène gazeuse, une gangrène des tissus, avec un pronostic vital engagé. Il faut savoir qu'une gangrène gazeuse, c'est 50% de mortalité. On n'a pas eu de mort, pour l'instant, à ma connaissance, mais on est quand même passé pas loin de mort pour une simple injection. C'est délirant d'en arriver là.
Donc sur les complications qui sont dramatiques, c'est pas les lèvres en pneu de tracteur ou les fesses gonflées. Là, vous voyez rien à redire à ces modifications que les jeunes femmes, mais pas seulement les jeunes femmes d'ailleurs, exhibent sur Instagram, du moment qu'elles sont effectuées dans de bonnes conditions.
Je dirais que ce qu'on voit de façon très exagéré, malheureusement, c'est souvent aussi des fake injectrices. Je discutais pas plus tard qu'hier avec une jeune fille qui était une influenceuse, qui s'était faite avoir, qui avait fait des injections chez une fake injectrice, qui lui a mis 4 millilitres dans la lèvre, 4 seringues dans la lèvre. C'est énorme. Ça fait 15 ans que je pratique les injections d'acide hyaluronique. J'ai jamais mis plus d'un millilitre ou 2 millilitres. Vraiment, 2 millilitres, c'est rare dans une lèvre. Mais dans 95% des cas, c'est 1 millilitre. Donc on est sur des quantités qui sont astronomiques et qui sont dangereuses. Elle aurait pu avoir une amputation de la lèvre. Donc souvent, ces modèles surgonflés qu'on voit, c'est souvent des fake injectors. De façon générale, les chirurgiens esthétiques et les médecins esthétiques pratiquent en France sont quand même assez raisonnables et on essaye de tempérer les ardeurs, en particulier des plus jeunes.
Donc seuls les médecins ont le droit d'injecter une seringue d'acide hyaluronique et d'autres comblements, hein. Mais leur vente n'est pas contrôlée. On peut en acheter en pharmacie, sans ordonnance, et même se l'injecter soi-même. Il y a des tutos sur Internet.
Oui, c'est délirant. Il y a des pseudo-tutos, des pseudo-modes d'emploi sur Internet. Injectez-vous vous-même. J'ai vu une photo, une vidéo hier, où une personne s'auto-injectait. Elle a piqué en plein à un endroit où elle avait une pustule. Elle n'avait pas vu qu'elle avait une pustule. Elle a piqué en plein à l'endroit où elle avait une pustule. Donc, elle a fait rentrer directement les microbes sous la peau. Donc, elle est susceptible d'avoir une infection. Voilà, par exemple, c'est un exemple. Et elle aurait pu toucher une artère ou un nerf. Enfin, c'est délirant.
Vous demandez à ce que ce ne soit plus vendu au public, même sur ordonnance. Hein. Vous voulez que ce soit réservé aux professionnels.
Absolument. Il n'y a aucune raison qu'un particulier aille acheter sa seringue d'acide hyaluronique. Il n'y a pas de chirurgien esthétique ou de médecin esthétique sérieux, à ma connaissance, qui fait une prescription, une ordonnance à un patient pour qu'il aille acheter de l'acide hyaluronique, pour qu'il revienne le voir pour se faire injecter. Quand on fait des prothèses mammaires, par exemple, une augmentation mammaire par prothèse, on n'envoie pas la patiente à la pharmacie à acheter ses prothèses et venir avec le jour du bloc. Ça n'a pas de sens. On fournit le produit, on l'achète, c'est au médecin de l'acheter, c'est au médecin de se le faire délivrer à son cabinet, à son adresse professionnelle et d'utiliser. Ce n'est pas quelque chose qui doit être dans les mains du grand public. C'est dangereux quand c'est dans les mains du grand public. Ce n'est pas fait pour.
C'est pareil le Botox.
Le Botox est déjà un médicament et il est déjà réservé à l'usage professionnel et il est déjà donc restreint d'ailleurs à certaines spécialités, dont les chirurgiens esthétiques. L'acide hyaluronique, non, c'est considéré comme un dispositif médical qui est un terme très très vaste, qui va de la compresse au thermomètre en passant par la prothèse mammaire. Donc c'est un terme très vaste et il n'y a pas une réglementation spécifique. Il faut réglementer au cas par cas et là, en l'occurrence, il y a un vrai problème avec ces injectrices illégales et on parle de au moins, je dis bien au moins, une cinquantaine de complications, dont certaines gravissimes, de l'année dernière, en 2022.
Mais vous avez estimé à combien ces injectrices illégales, ces faux médecins qui injectent illégalement, et où est-ce qu'ils agissent ?
Alors, plusieurs centaines, c'est très simple. J'ai tapé Russian Lips Paris hier sur Instagram. C'est une technique d'injection des lèvres. Je suis tombé sur les 20 premiers comptes sur les réseaux, sur Instagram. C'était des fake injectors. Les 20 premiers. On les estime à plusieurs centaines sur toute la France. Elles travaillent, alors, soit dans des Airbnb, il y en a dans des caves, il y en a dans des... On a tout entendu. Il y a des coiffeuses, il y a des masseuses qui se sont reconverties dans les injections d'acide hyaluronique, il y a des esthéticiennes, il y a deux esthéticiennes qui se sont faites condamner hier à des peines de prison avec une interdiction d'exercer la profession d'esthéticienne pendant 3 ans à Rennes. Donc on voit de tout, des personnes qui n'ont aucun rapport avec le domaine des professions de santé. Je salue au passage les professions de santé. À chaque fois que j'ai discuté, par exemple, avec des infirmiers ou des infirmières, elles savent, elles sont parfaitement conscientes des risques. Et la réponse que j'ai systématiquement, c'est ça ne me viendrait jamais à l'idée de planter une aiguille dans un visage. Je ne connais pas du tout l'anatomie, je ne sais pas faire, ça ne me viendrait même pas à l'idée de le faire. On n'a pas de professionnels de santé, à ma connaissance en tout cas, impliqués dans ces trafics.
On fait une pause, docteur Louafi, et on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec le docteur Adèle Louafi, le président du syndicat national des chirurgiens esthétiques. Ils sont à l'origine d'une tribune parue cette semaine dans Le Parisien. Ils demandent à ce que l'acide hyaluronique ne soit plus vendu au public, même sur ordonnance, que ce soit réservé aux professionnels. Mais alors justement, parmi, il y a beaucoup de naïveté souvent chez celles et ceux qui ont affaire à ces fake injecteurs, comme vous les appelez. Comment les distinguer, les faux médecins, des vrais médecins en général ? Ils ont tous la même blouse blanche.
C'est très facile. Il y a 5 signes d'alerte quand vous allez sur les réseaux sociaux. Le premier, c'est qu'un médecin se présente toujours avec un nom et un prénom. Déjà, quand vous n'avez pas un nom et un prénom, vous avez une espèce de pseudo, il y a un problème. Le deuxième, c'est qu'il y a un médecin à un cabinet avec une adresse professionnelle. Si vous êtes obligé de passer en MP, en message privé, pour avoir une adresse professionnelle, il y a un problème. Le troisième, c'est qu'un médecin a un cabinet avec une ligne fixe. Pour avoir une ligne fixe, il faut donner une pièce d'identité. Si vous n'avez pas de ligne fixe, c'est suspect. Le quatrième, c'est qu'un médecin a un titre de docteur. En général, c'est écrit docteur X, voilà, enfin, docteur, voilà. Donc, c'est pas une cosmétologue, c'est pas praticienne, c'est pas praticienne diplômée, c'est docteur. Et le dernier point d'alerte, c'est que on ne peut pas, un cabinet médical prend toujours au minimum, soit les cartes bancaires, soit les chèques. Qu'à un endroit où on vous refuse à la fois la carte bleue et les chèques, c'est suspect.
Et question tarif, à partir de quel tarif on devrait s'inquiéter ?
En fait, de façon générale, les tarifs des professionnels, c'est-à-dire des médecins esthétiques ou des chirurgiens esthétiques, varient dans une fourchette, on va dire, de 250 à 500 euros. Les injections illégales, c'est plutôt aux alentours de 150 euros. Ça aussi, c'est un signe d'alerte, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est quelqu'un qui n'a aucune compétence. Ce sont des charlatans, il n'y a pas d'autre mot pour les décrire. Et ce sont des personnes, il faut bien comprendre, qui sont sans foi ni loi, sans scrupules. Moi, j'ai vu des patientes victimes défigurées se faire menacer devant moi au téléphone, sur haut-parleur, se faire menacer devant moi d'agression physique si elles osaient porter plainte. Donc, c'est comme ça. Elles sont toutes mielleuses quand attirer les patientes. Et quand ça tourne mal, ça tourne aux menaces d'agression physique, voire dans certains cas, aux menaces de mort. On l'a vu.
Alors, docteur Louafi, néanmoins, cette mode de se faire gonfler anormalement les lèvres ou les fesses, ça paraît toujours étrange. D'où ça vient? Comment ça se justifie? Et comment y répondez-vous? Parce que vous avez, j'imagine, des patientes qui viennent et qui vous disent « j'ai envie d'avoir des fesses outrageusement augmentées ou des lèvres outrageusement ourlées ».
Alors, il faut savoir que l'écrasante majorité des patientes qui ont recours à la chirurgie esthétique, à la médecine esthétique et qui ont recours aux professionnels légaux ont des demandes qui sont tout à fait raisonnables. C'est rare d'avoir des demandes excentriques. Nous avons, nous, en tant que chirurgiens esthétiques, le devoir de vérifier trois types de contre-indications. D'abord, les contre-indications médicales, ce sont les plus évidentes. Ensuite, il y a les contre-indications que j'appelle psychiatrique, c'est-à-dire des personnes, par exemple, qui ont une dysmorphophobie, sont des personnes qui vont faire une fixation complète et c'est vraiment de la psychiatrie. Et puis, il y a les contre-indications qui sont plus sensibles, qui sont les contre-indications psychologiques. Et là, c'est plus du cas par cas où on va évaluer un petit peu la patiente ou le patient et on va discuter des motivations et on va discuter aussi, on va essayer de tempérer les personnes qui ont des demandes exagérées, ne serait-ce que pour des raisons médicales, parce que parfois, c'est tout simplement dangereux.
C'est souvent des effets de mode, hein. C'est le cas pour les lèvres et les fesses, c'est un effet de mode. Est-ce que ensuite ça se résorbe? Est-ce que ça va disparaître ou est-ce que ça va rester éternellement? On est dans la médecine esthétique, on n'est pas dans la chirurgie, donc on se dit que ça n'est pas irréparable.
Alors, quand c'est du vrai acide hyaluronique, il est résorbable, donc il va être résorbé par l'organisme naturellement. Et il y a d'ailleurs un antidote qu'on peut utiliser quand on est sûr que c'est de l'acide hyaluronique, qui s'appelle la hyaluronidase, qui permet de dissoudre ce produit. Le problème, c'est que dans les injections illégales, on n'a jamais, je dis bien jamais, la traçabilité du produit. On n'a jamais une référence avec un numéro de lot. Pour vous donner un exemple, une patiente que j'ai vue récemment pour des injections illégales, qui a appelé son injectrice illégale, elle lui dit, je lui avais dit, il me faut la référence numéro de lot. Elle lui dit, mais quelle est la date d'expiration? Elle lui dit, t'inquiète, j'ai pris ça en pharmacie, ça périme dans longtemps. On peut pas, c'est juste incroyable de donner cette réponse à une patiente. Donc on est sur des gens qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils font et qui s'en foutent d'ailleurs.
Effectivement, présenté comme ça, c'est sûr. Donc ça se résorbe, quand ce sera plus la mode, on retrouvera ses fesses et on retrouvera ses lèvres.
Oui, quand ça sera plus la mode, effectivement, on va retrouver. Mais voilà, mais de toute façon, encore une fois, c'est vrai qu'il y a malheureusement une influence un peu forte, moi je trouve, à la fois des réseaux sociaux, des influenceurs, qui ont imposé un peu ces nouvelles normes de beauté.
Pas seulement, il y a la cérémonie des Oscars aussi. Hein. Quand vous regardez la cérémonie des Oscars, vous n'avez plus un seul visage normal.
C'est vrai. Les stars hollywoodiennes. Bon, mais en tout cas, voilà. Donc, ce sont des nouveaux modèles de beauté, nouveaux critères de beauté. Bon, en France, on a encore la French Touch, c'est-à-dire on est connu d'ailleurs dans les congrès internationaux pour ça, pour des résultats assez naturels, très loin de ce qui se fait sur la côte ouest américaine ou au Brésil. Mais bon, ça commence à toucher l'Europe, mais on essaye quand même de tempérer les choses. Mais voilà, bon, je pense que cette mode va passer. Là, j'ai parlé des influenceurs, j'en appelle aux influenceurs à leur devoir de responsabilité, avant même que j'ai vu qu'il y a une loi qui va passer, mais avant même d'attendre la loi. Il y a un devoir éthique, un devoir moral. Vous avez la responsabilité aussi de messages que vous transmettez à tous vos millions d'abonnés qui sont souvent jeunes, c'est souvent des jeunes filles, et vous ne pouvez pas les inciter en particulier à faire des injections illégales. On a vu ça, de la promotion d'injections illégales par des influenceurs. Ça, c'est totalement inadmissible. Et vraiment, j'en appelle d'abord à leur devoir de responsabilité morale avant même des sanctions pénales ou autres.
Merci, docteur Adel Louafi. Je rappelle que vous êtes le président du Syndicat national des chirurgiens esthétiques. Et je vous propose, pour se détendre, d'écouter Dépêche Mode, Enjoy the Silence. Vous aimez le silence ?
Parfaitement.
C'était Dépêche Mode qui interprétait Enjoy the Silence. On fait une pause et on se retrouve avec Alicia Doré qui publie À nos ivresses.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Alicia Doré.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisée dans le domaine du vin et de la gastronomie au Figaro. Vous publiez votre premier livre, À nos ivresses, chez Flammarion, qui reçoit ce week-end le prix Jean Carmet des Journées nationales du livre et du vin à Saumur. Et oui, c'est ce week-end, les Journées nationales du livre et du vin. Faut-il encore faire l'éloge de l'ivresse dans une époque comme la nôtre où l'on condamne tous les excès et où l'on n'a plus que le mot sobriété à la bouche ? Est-ce que c'est bien raisonnable ?
Alors raisonnable, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, c'est un sujet assez, assez glissant. Et au départ, je suis partie d'une matière qui était quasiment inexistante en fait, pour écrire cet ouvrage, parce qu'il y a eu des anthologies de l'ivresse, mais qui parlent d'auteurs qui aujourd'hui ne font plus partie de ce monde. Et tous les écrits que je trouvais sur l'ivresse étaient en fait plutôt des travaux académiques qui parlaient de l'ivresse comme d'un état un petit peu préliminaire à l'effondrement, ou en tout cas une zone grise de l'alcoolisme. Et en fait, moi, j'ai voulu parler d'une ivresse qu'on pouvait, alors non pas en faire l'éloge, mais dont on pouvait parler en l'observant comme un fait social et une façon d'observer la société un peu différemment, comme un de nos derniers espaces libres.
En l'observant et en la vivant, l'ivresse. Hein. Vous ne vous cachez pas dans ce livre, qui est effectivement très littéraire, de l'avoir vécu à plusieurs reprises.
Voilà, exactement. Alors j'ai été le meilleur cobaye de cet ouvrage. En tout cas, alors aujourd'hui, avec le métier que je fais, je dois faire quand même relativement attention. Et effectivement, tout est une question d'équilibre, mais un équilibre qui est impossible, puisque par définition, l'ivresse, c'est une sorte de lâcher prise.
Alors l'ivresse, c'est souvent associé à la violence, hein, aujourd'hui. Automobile ou conjugale. Vous n'y faites guère allusion dans votre livre. Ça, vous n'avez pas connu, ça.
Alors non, pas vraiment. J'en parle un petit peu de façon liminaire dans le chapitre sur un certain genre d'ivresse, en disant qu'il y a vraiment une perception de l'ivresse chez l'homme et chez la femme qui est extrêmement différente. Et l'ivresse et la violence, et l'ivresse et l'automobile en tout cas, sont souvent associés à une ivresse masculine qui est regardée de façon très très différente que l'ivresse féminine.
Bon, il existe aussi une ivresse innocente, d'après vous, une ivresse positive.
Oui, je pense qu'il y a une ivresse positive, une ivresse qui est mesurée et qui permet un petit peu de... Alors, de façon assez paradoxale, de sortir de soi, mais aussi de rentrer en soi, je trouve.
Mais vous pensez cela même quand on a du mal à parler et à se tenir droit ?
Non, alors là, c'est quand voilà, y a un effet de bascule au-delà duquel, là, c'est quand on ne peut plus rentrer chez soi, c'est là où ça devient problématique.
Ou quand il y a la honte des lendemains d'ivresse. Hein. Vous l'assumez, vous, même quand on vous la fait remarquer ?
Alors ça, c'est toujours difficile, la honte. Je pense que c'est un des sentiments qui est le plus associé à l'ivresse, et là aussi qui fait un peu ressortir le fond de sauce du moment. Il y a des moments où on est davantage sujet à la honte que d'autres, et là encore, je trouve qu'il y a une vraie différence entre le féminin et le masculin.
Pourquoi ? Parce qu'on l'accepte encore plus mal de la part des femmes.
On l'accepte encore plus mal parce qu'on entend toujours « c'est pas beau une femme qui boit ». Donc déjà, de prime abord, il y a un soupçon de honte à venir.
Mais vous défendez, vous, par exemple, l'ivresse du matin, qui est pourtant très mal vue. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'ivresse ?
Alors, ce qu'il y a de bon dans l'ivresse, c'est cette sensation, je dirais, de, effectivement, comme j'en ai parlé précédemment, de lâcher prise. Et l'ivresse du matin, parce qu'on a l'impression d'être dans un moment beaucoup plus subversif. Et là encore, je trouve que dans l'ivresse du matin, il y a une question de contexte et pas forcément liée à la quantité absorbée. Parce que le même verre à une heure matinale, mais dans un contexte complètement différent, va être perçu de façon extrêmement différente.
L'ivresse du vin est-elle très différente de celle que procurent d'autres alcools ?
Alors là encore, j'ai été un excellent cobaye pour cet ouvrage, vu que j'ai essayé énormément, j'ai expérimenté plusieurs types d'ivresse. Et effectivement, je trouve que l'ivresse du vin est beaucoup plus douce que celle des alcools forts, même si certains alcools provoquent une ivresse plus mélancolique, et notamment le saké. Donc j'en parle un peu plus dans l'ouvrage.
Vous parlez d'ivresse blanche, qui n'aurait rien à voir avec l'ivresse rouge, par exemple.
Voilà. Alors, l'ivresse blanche, je parle de l'ivresse du saké comme de l'ivresse cristalline, et qui met dans un état de mélancolie. Et plusieurs auteurs japonais, apparemment, auraient écrit sur ce sujet-là, mais je l'ai appris bien plus tard.
L'ivresse, ça nous rappelle qu'on est capable de se dédoubler. Hein, mais lequel est le vrai ? Quand on est ivre ou quand on ne l'est pas ?
Ça, c'est toute la question, parce que le lendemain, on va se dire, ou on va dire aux autres qui nous font remarquer qu'on était ivre, je n'étais pas moi-même hier soir. Alors que les autres vont penser, elle a montré son vrai visage.
Vous, qu'en pensez-vous ?
Alors, moi, je pense qu'on est, davantage soi lorsqu'on est ivre, parce que beaucoup de barrières tombent et on dit des choses qu'on s'était juré de ne jamais dire. On fait des choses qu'on n'aurait jamais osé faire dans un état de sobriété. Donc je pense qu'il y a un surcroît de vérité qui s'installe lorsqu'on est ivre de façon même raisonnable.
Y compris quand ça nous pousse à la franchise ou à la méchanceté. Comment est-ce qu'on fait la part entre les deux d'ailleurs ?
Entre la franchise et la méchanceté ?
Oui.
Ah, là c'est plutôt l'interlocuteur qui doit trancher.
Non, parce qu'en se croyant franc, parfois on est juste cruel.
Effectivement, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a aussi une dimension cathartique à l'ivresse. Ça permet de faire ressortir des choses qu'on aurait gardées par devers soi et qui auraient fini par nous faire souffrir.
Est-ce qu'il faut boire seul ?
Alors ça, boire seul, c'est vraiment un choix. Moi, j'ai bu seul et maintenant, je ne bois plus jamais seul. Mais c'est vraiment des périodes de la vie. Je pense que je suis toujours assez partagée lorsqu'on dit que les très grandes bouteilles, il faut les boire à plusieurs. Parce qu'au contraire, je trouve que c'est des moments où on n'est pas en mesure de métaboliser de merveilleux vins correctement. Je trouve que les grands vins sont pour les petits comités. Alors, jusqu'à les boire seuls, peut-être pas, à part si on est un grand passionné. Mais non, boire seul, oui, c'est vraiment un choix individuel. C'est vrai.
Alicia Doré, est-ce que l'ivresse est sensuelle ? Et dans ce cas-là, est-ce que le consentement de quelqu'un qui a bu est encore valable ?
Je pense que dans l'ivresse, il y a aussi une dimension où je la vois un petit peu comme une offrande à l'autre. C'est-à-dire que c'est une preuve de confiance de donner son ivresse à l'autre. Il y a des gens parfois que je côtoie avec lesquels je n'ai pas envie d'être ivre parce que je n'ai pas envie de leur offrir mon ivresse, parce que c'est une forme de vulnérabilité qu'on offre.
Une vulnérabilité qui va jusqu'à l'absence totale de retenue ?
Non, 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 absolument pas. Non, parce
on est toujours maître de soi. Enfin, vous l'êtes.
Voilà, il faut rester maître de soi parce qu'à partir du moment où l'ivresse est liée à une forme d'oubli, là, on va dans une zone plus dangereuse.
Mais justement, c'est ça qui fait peur à tout le monde, c'est cette zone dangereuse. Comment est-ce qu'on sait qu'on l'approche ?
Il faut l'expérimenter beaucoup pour connaître le point limite. En fait, au bout d'un moment, on sait jusqu'où on peut aller, je pense.
L'ivresse, le mot est charmant, mais il y a un dérivé qui l'est moins, c'est ivrogne. Comment fréquenter l'un sans sombrer dans l'autre ?
Je pense que quand la boisson devient décorrélée d'une dimension de plaisir, et j'appelle ça le boire pour boire, on voit beaucoup de même auprès, enfin la jeunesse qui le binge drinking pardon, ou des pratiques comme ça qui n'ont pas d'autre fonction que de boire pour boire. Alors que je trouve que dans le vin, il y a une dimension de goût, de plaisir qui fait que ça peut presque être considéré comme une part de l'alimentation.
À ce point-là ?
À ce point-là, oui, oui. Je pense que ça fait partie d'un régime alimentaire.
C'est quoi la meilleure ivresse pour vous ?
Celle qui fait qu'on peut se dire après coup, ça c'est moi.
Ah oui, c'est difficile. Merci Alicia Doré d'être passée par Europe 1. Je rappelle que votre livre s'intitule « À nos ivresses ». Il est paru chez Flammarion et il reçoit aujourd'hui même le prix Jean Carmé des Journées nationales du livre et du vin. Ça se passe à Saumur. Vous y partez donc.
Exactement. Merci beaucoup.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine et parvenu à son terme. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1. Il est temps maintenant de laisser la place aux grandes voix animées par Pierre de Villeneuve. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Quel est le programme ?
Eh bien le programme c'est simple. On va voir comment est-ce que le gouvernement, l'exécutif peut sortir de la crise politique et tenter de mettre fin aux violences.
Merci Pierre, bonne émission.
Merci.
10h, 11h.
Les grandes voix d'Europe 1.